On a failli se le faire voler, hein? L'animateur de l'après-midi de Y'a des PM comme ça, le volé pour la semaine dernière, mais on le retrouve dans la case horaire où on a l'habitude de le trouver. On va parler d'environnement avec Pierre-Étienne Drolet qui est chargé de projet, biologiste également pour le Cobali. Si vous étiez à l'écoute de ce qu'on a fait la semaine dernière dans la chronique communautaire, ben vous en savez, pardon, un peu plus maintenant sur le Cobali, mais pour les autres, c'est un organisme qui est responsable de la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Et comme on l'a appris la semaine dernière, ben ça va plus large que ça aussi. Pierre-Étienne, je vais assez parler. Bonjour.
Salut Patrick.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Aujourd'hui, évidemment qu'on va parler d'eau, on va aller dans les milieux aquatiques, on va parler d'animaux et notamment, ben, plus spécifiquement, des amphibiens.
Oui, parce que depuis le mois d'octobre, tu as vu que j'ai parlé de plusieurs espèces d'animaux de nos régions. C'est un peu ce que je veux faire découvrir cette année. Puis là, ben, pour terminer en beauté la série, je me suis dit que les amphibiens, c'est un passage obligé pour un biologiste. Là,
je trouve ça logique. En général, quand on arrive ici, tu me dis, des amphibiens, il y en a 3-4 sortes connues. Il y en a 1000 autres sortes. J'imagine que tu vas nous faire un topo assez large. Ça doit être large, cette famille-là, quand même.
Oui, bien comme toujours, il y a bien des choses à savoir. Beaucoup de plus d'espèces que les gens pensent souvent. Fait qu'en gros, pour placer le portrait de famille, là, on a deux grandes sortes, là, deux ordres d'amphibiens au Québec. Pour vous mêler, les biologistes ont eu l'idée de leur donner des noms super savants, là, mais ça peut être intéressant pour le Scrabble. Là. On a d'un côté les urodèles et de l'autre les anoures.
Mon Dieu, ça a l'air des races dans Le Seigneur des Anneaux ou je sais pas, quelque chose comme ça. OK, aide-moi un peu.
Ben en gros, là, les urodèles, en bon français, c'est ce qu'on appelle les salamandres et les tritons. Et les tritons, tandis que les anours, ça comprend les grenouilles, les crapauds et les rainettes.
Comment ça, je savais pas ça, moi, des grenouilles, c'est des anneaux. Ben oui, tout le monde sait ça.
Ben oui, ben là, maintenant, tu vas pouvoir le plugger au Scrabble. Ça.
Excellent!
Il y a bien des gens qui confondent les amphibiens et les reptiles, hein, parce que, entre autres, les gens pensent que les salamandres, c'est des lézards. Mais le truc le plus simple pour les différencier, c'est que les reptiles ont des écailles, hein, comme les tortues ou les couleuvres, tandis que les amphibiens ont la peau lisse. En fait, il n'y a aucun lézard au Québec, hein, donc détrompez-vous. Là, si vous pensez que vous voyez un petit lézard, c'est parce que vous avez trouvé une salamandre, en fait, qui est un petit animal, donc qui a la peau lisse. Et qui a quatre pattes, qui est allongé, mais on voit bien ses quatre pattes. Comparativement à un ver de terre, évidemment, qu'on peut aussi confondre à l'occasion.
Ouais, c'est ça. Faut être bon pour spotter les pattes d'un ver de terre, pardon. J'en perds la voix, je suis ému. Tu me parles de ver de terre, j'ai le goût d'aller à la pêche. OK, un problème à la fois. C'est qu'il y a des salamandres, mais est-ce que c'est normal d'en trouver ailleurs que dans un pet shop ou un aquarium?
Oui, mais premièrement, il faut savoir qu'il y a quand même quatre espèces de salamandres dans les Hautes-Laurentides, plus une espèce de triton qui est apparenté. Puis les salamandres, c'est très discret comme animal. Ben donc, ça se retrouve généralement, là, ils vont vivre dans le sol, dans des galeries dans le sol ou sous les roches, ou souvent aussi sous le bois mort, puis dans les troncs pourris.
Ah, ben oui.
Et que si on ne lève pas des roches ou qu'on ne regarde pas dans le bois mort, ben on n'en trouve pas souvent. C'est un peu le principe de base parce que les salamandres, ça sort presque uniquement la nuit, puis ça a une préférence quand il pleut.
OK.
Fait que c'est un peu l'inverse de nous autres, on ne sort pas souvent la nuit quand il pleut.
C'est vrai, c'est plus tranquille.
Fait que mais il y a des exceptions, comme toujours. Donc, la salamandre à deux lignes, par exemple, on appelle aussi la salamandre de ruisseau, mais elle passe le plus clair de son temps dans les petits ruisseaux, comme ça le dit, cachée sous les roches. Donc, la plupart des salamandres vont se reproduire dans les mares qui se forment à ce temps-ci de l'année, là, dans la forêt, ou encore dans les cours d'eau. Il y a une exception, c'est la salamandre cendrée, la plus petite. Elle pond ses œufs directement dans la mousse, puis elle ne fréquente pas tellement les cours d'eau.
Qu'est-ce que tu veux dire par de la mousse? Dans du lichen ou je ne suis pas là pantoute?
Oui, ben les tapis de mousse, là, la petite mousse verte là, qui recouvre les roches ou le sol. Là.
OK. Peut-être que pour les gens à la maison, c'est très clair. Pour moi, ça l'est un peu moins. Là je t'écoute parler puis j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup plus que je pensais. Des salamandres, c'est juste qu'on les voit pas. Est-ce que c'est quand même rare ici ou pas?
C'est vraiment pas rare. En fait, si je prends la plus commune, là, la salamandre cendrée, là, ben elle a un record assez impressionnant à tâche statique.
OK.
Selon les chercheurs, là, si on demandait à tous les animaux dans une forêt de type érablière, un peu ce qu'on a dans la région ben aussi. Ouais. À l'exception des invertébrés, okay, comme les insectes. Si on demande à chaque espèce de venir se faire peser espèce par espèce, OK? OK, mettons, on dirait, là, tous les orignaux de la forêt, venez-vous-en, on va vous mettre dans une balance, puis on va vous peser.
Ouais.
Tous les écureuils de la forêt, venez-vous-en dans la balance, on va vous peser. Bien, l'espèce qui serait la plus lourde dans la balance, ça serait la salamandre cendrée. Tellement il y en a. Donc. Mais on... c'est très discret, mais il y en a. C'est loin d'être rare.
OK. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y en ait autant? Est-ce que ça peut faire du dommage sur l'écosystème?
Non, c'est une très bonne chose parce que c'est un peu à la base de beaucoup de. C'est à la base de la chaîne alimentaire pour beaucoup d'espèces. C'est une espèce qui se reproduit énormément, mais qui est aussi consommée énormément par beaucoup d'animaux. Fait que c'est un pilier assez important de la chaîne alimentaire.
OK. Ça fait longtemps, là, c'est vraiment dans le passé, mais je pense qu'on avait brièvement parlé des grenouilles. Mais là, tu nous as parlé des anours, fait que notamment les grenouilles, les crapauds, tout ça. Ça, est-ce qu'on a plusieurs espèces différentes ici?
Oui, ben on a évidemment une espèce de crapaud. Hein, tout le monde connaît le crapaud qu'on a. On a aussi 5 espèces de grenouilles dans le coin, dont la grenouille des marais, qui est plus rare qu'un statut de protection. Puis on a le wawaron, le plus gros, gros de la gang.
C'est-tu le plus bruyant? Oui, hein? En général.
Oui, il fait un peu un bruit de bœuf dans l'eau, là, okay. un gros mugissement.
Tu nous as mentionné aussi les rainettes. Qu'est-ce que c'est ça, une rainette?
Oui, ça, c'est plus étonnant. Les gens, souvent, ils pensent qu'il y a juste ça en Amazonie, là, des rainettes, mais on a bel et bien ça au Québec. On en a 2 espèces, la rainette crucifère et la rainette versicolore.
Okay.
La différence entre une rainette et une grenouille, là, pour ceux qui se demandent, se posent la question, c'est que les rainettes ont des ventouses sous les doigts. Donc, elles sont capables de grimper sur des arbres, des murs. Elles peuvent marcher à la verticale. Puis en fait, c'est leur habitat. Les rainettes vont vivre dans les arbres, même parfois presque au sommet.
Ils ont moins besoin de l'eau. Là.
Oui, ben ils ont besoin d'eau pour se reproduire, un peu comme la plupart des amphibiens là, vont se reproduire dans les mares ou dans les cours d'eau, mais ils vont passer le plus clair de leur temps dans la végétation. Puis, à ce temps-ci de l'année, je peux pas m'empêcher de dire que la rainette crucifère, pour ceux qui connaissent pas cet animal-là, en fait, vous connaissez très bien, mais à l'oreille, parce que à la fin du printemps, là, à ce temps-ci de l'année, c'est la rainette qui va faire le fameux bip, 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 bip,
ah, ouais.
Qui va faire une espèce de bruit de fond là, incroyable là, sur quasiment toute la région. Mais c'est les rainettes crucifères qui font ce fameux bruit-là, qui souvent est mal identifié. Les gens pensent que c'est soit une grenouille ordinaire ou même des insectes.
Ouais.
Mais c'est bel et bien les petites rainettes minuscules qui font ce bruit-là.
Ben, tu vois, tu me l'apprends, effectivement. Je fais partie des gens qui pensaient que c'était plutôt un insecte qui faisait ça. OK, il y en a beaucoup à savoir. Est-ce qu'il y a des petits trucs pour aider à la conservation de ces espèces-là?
Oui, ben les amphibiens, premièrement, on le sait, hein, c'est... Tout ce qui touche la pollution, ça a un impact direct parce que sont très sensibles à cause de leur peau qui est super perméable. Là. Même ils respirent par la peau carrément. Évidemment, tout ce qui est pollution, entre autres, si vous avez des hydrocarbures là, comme de l'essence ou des choses comme ça qui se déversent, ça va avoir un impact direct sur leur santé.
Okay.
Et puis sinon, ben, il faut évidemment éviter de drainer ou de remplir là, des milieux humides, des mares qui se forment au printemps parce que c'est un habitat super important pour leur reproduction au printemps. À ce temps-ci de l'année, là, vous allez les entendre.
C'est clair, ouais. Il faut se poser la question avant de faire des changements comme ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on était avec Pierre-Étienne Drolet. Il est biologiste et également chargé de projet au COBALI. Merci, Pierre-Étienne.
Merci, Patrick. À la prochaine.
Oh oui!